Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore pu saluer. Je suis très impressionné d'être ici avec une grande assistance comme ça. Je m'appelle Hervé Gibert, je vis à Aix-en-Provence, en France, dans le sud de la France. Et avec mon épouse, nous avons été appelés il y a 6 ans à nous investir dans le cadre de la relation d'aide et d'accompagner et d'écouter tous ceux qui, dans leur vie et dans leur vie conjugale ou familiale en particulier, ont des difficultés et de pouvoir essayer de les accompagner un petit peu et de voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit et nous conseille pour avancer. Alors, je voyage aussi avec Bertrand qui est là et que vous entendrez tout à l'heure et nous avons ce privilège d'aller annoncer ces vérités aussi dans un certain nombre de pays francophones afin de fortifier l'Église et de fortifier les familles. Au mois de janvier dernier, nous étions avec Bertrand en Haïti et nous avons reçu un mail de Nathanaël nous proposant de venir pour cette rencontre-là. Et dans l'euphorie du moment, nous avons accepté tout de suite, pensant que les choses seraient simples et heureuses et faciles. Et puis les jours se rapprochent et les jours arrivent et nous voilà là maintenant. Et il y a quelques jours, j'essayais de préparer un petit peu ce que j'allais devoir vous dire. Et mariage dans le sujet qui m'a été confié, mariage ou célibat, s'y préparer, comment s'y préparer? Bon, je me disais le mariage, j'ai l'habitude, ça c'est facile. On fait beaucoup de formations au mariage, j'ai des éléments, ça va aller. Célibat, c'est déjà plus dur. Moi, je me suis fiancé à 17 ans, j'étais marié à 20 ans. J'avais un peu moins d'expérience. Mais voilà, on fait de l'accompagnement de personnes individuelles. J'ai fait aussi des camps de célibataires. Et donc, j'ai été confronté aux souffrances, aux difficultés, aux questions qu'on peut se poser en tant que célibataire. Et donc, j'ai préparé un PowerPoint que je vais vous montrer avec d'un côté le célibat, d'un côté le mariage, avantages, inconvénients, comment faire, difficultés rencontrées, comment se préparer. Et puis samedi matin, je quitte Aix, et puis il y a quand même un long voyage pour venir jusqu'ici, et j'ai eu l'idée de me lancer, de découvrir ce qu'était le covoiturage, pour avoir un passager, pour pouvoir échanger et s'occuper un petit peu. Et faire cette expérience que je ne connaissais pas. Et donc, je pars et à Valence, je prends un monsieur de 50 ans qui allait à Annemasse. Et donc, je l'emmène sur la route. Et puis, chemin faisant, nous échangeons un petit peu. Et voilà que ce monsieur me dit, mais je vais à Annemasse, je vais retrouver ma copine. Bon. On avance encore un peu. Je dis, mais... Elle me dit, j'ai pas de chance, moi mes copines, je les trouve toujours loin de chez moi, je suis obligé de me déplacer, c'est compliqué. Je dis, mais vous les cherchez comment, vos copines? Elle me dit, mais moi je les trouve sur Mythique. Alors Mythique, c'est un site internet qui met les gens en relation et qui est le grand marieur du 21e siècle, marieur ou rassembleur. Et alors je lui dis, mais écoutez, moi vous voyez, je suis marié depuis 32 ans et je manque d'expérience dans la conquête et la séduction, donc expliquez-moi comment ça fonctionne. Et ce monsieur m'a raconté comment se passent les relations, les rencontres par Internet sur ce site en question. Et il m'a décrit comment il fonctionnait, ce qui se passait. Alors je vous épargne les détails, mais on continue un peu le voyage et il finit par me dire que cette copine qu'il allait rencontrer, il la connaît depuis 3 ans. Et donc, la question qui me vient spontanément, c'est « Alors, est-ce que vous allez avancer dans la relation ?» Et il me dit « Pas du tout. C'est ma copine pour l'instant, mais je suis quand même inscrit pour en chercher une autre, mieux, plus près, plus ceci, plus cela, avec... voilà. » Et donc, c'est le troisième aspect que je n'ai pas décrit dans mon sujet et que le Seigneur m'a placé là dans ma voiture. C'est cet état de semi-relation. Et avec Jean tout à l'heure, on parlait de ce statut qu'ont beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'appellent sur Facebook « en couple ». Mais en couple, pour beaucoup d'entre nous, enfin en tout cas pour moi, c'était marié ou à la limite concubin. Non, en couple, ça veut dire « je ne suis pas libre ». Et beaucoup de jeunes se présentent en couple, alors qu'ils ne vivent peut-être même pas ensemble, ou pas régulièrement. C'est un nouveau statut. Mais ce statut-là, eh bien, il n'est pas décrit dans la parole de Dieu. Il n'est pas prévu dans la parole de Dieu, et il est simplement rangé dans ce que la parole appelle la fornication, c'est-à-dire les relations en dehors du mariage. Alors, on va voir un petit peu, mais j'ai été très touché de voir que, voilà, par ce voyageur que je n'attendais pas, qui s'est trouvé spontanément dans ma voiture, comme ça, d'être interpellé sur ce sujet. Et voilà, j'ai pu en profiter pour lui dire, quand il m'a demandé ce que j'allais faire en Suisse, je lui ai expliqué que j'allais parler du mariage et du célibat. Ça a un peu clos la conversation, je ne vous cache pas. Alors, voilà le plan. On va essayer de voir une perspective historique et biblique du mariage et du célibat, les spécificités du célibat, les spécificités du mariage, et puis quelques mots de conclusion. Dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, chapitre 1er, Dieu donne ce mandat créationnel à l'homme, fructifiez-vous, remplissez la terre. Et cette consigne est donnée de se mettre ensemble, de se produire, et tout de suite après, Dieu va dire à l'homme, Genèse 2, 24, instituer le mariage, quitter, s'attacher, être ensemble. C'est bien décrit et c'est bien prévu dans l'Ancien Testament. La nécessité d'avoir une famille était dans ce désir, ce besoin, ce souhait d'être dans la lignée du Messie. Il y avait cette promesse que le Messie viendrait, serait le libérateur, et toute femme en Israël avait ce profond désir viscéral de pouvoir être un jour dans la lignée du Messie. Et c'était chevillé, chevillé au corps, imprégné dans toute femme, dans tout couple, d'être dans cette lignée. Dans l'Ancien Testament, on trouve le mariage et le fait d'avoir une postérité comme une bénédiction particulière de Dieu. C'est important, c'est fondamental que y ait cette façon de vivre qui montre que l'Éternel a béni. Et alors, on le trouve, je pense en particulier au psaume... numéro m'échappe, 127, je crois. Les fils, un héritage de l'Éternel, la récompense, la bénédiction. Et pour l'Israélite, la preuve de la bénédiction de Dieu, la marque de la bénédiction, c'est le mariage et la postérité. À tel point que Dieu avait mis la loi du Lévirat. Une femme qui se retrouvait veuve était confiée au frère de son mari pour que la postérité puisse être assurée. Et voilà des choses qui nous surprendraient vraiment beaucoup aujourd'hui, mais c'était l'orientation donnée par Dieu pour l'Ancien Testament. Il y a une bénédiction quant au mariage. On pense à ces versets de Proverbes 12, 31, 19. Hein, une femme sage vient de l'Éternel, une femme vertueuse, qui la trouvera? C'est le signe de la bénédiction de Dieu sur l'homme. J'ai été particulièrement frappé de voir que le vocable « famille » dans notre Bible usuelle se trouve environ 180 ou 200 fois dans l'Ancien Testament. Et donc, la notion, la notion de famille, l'impression de la famille est quelque chose qui est vraiment ancré profondément dans l'Ancien Testament. Que les choses soient claires, je ne fais aucun amalgame à propos de Deutéronome 23. Et c'est simplement, je considère l'eunuque comme un célibataire très particulier pour des raisons très particulières, et il n'est pas question de faire le moindre amalgame, que les choses soient bien claires. Mais à propos de l'eunuque, il n'était même pas question qu'il fasse partie de la congrégation d'Israël. Il ne pouvait pas entrer dans le peuple d'Israël. Et donc il y a vraiment cette forme, ce besoin de famille. Et on trouve ce diagramme de fonctionnement, Dieu qui est sur la famille, au-dessus de la famille, qui donne sa bénédiction à la famille, qui elle-même est sur le peuple, Israël, et puis la conquête du pays. Et il y a cette triptyque qui est ancrée avec la famille au cœur du dispositif de Dieu. Dans le Nouveau Testament, alors, le mandat n'est plus créationnel, il est évangélique, et le Seigneur, en partant, va laisser à ses disciples cette consigne, non pas fructifiez, multipliez-vous, mais faites disciples toutes les nations. Et donc nous avons ce mandat de faire croître l'Église, le peuple de Dieu, par l'évangélisation. Nous n'avons plus, comme dans l'Ancien Testament, l'attente, l'espérance du Messie. Là, nous sommes dans Christ vit en nous. Christ est venu, Christ a été sur la terre, maintenant, il vit en nous. Galates 2:20. Notre vie est cachée dans le Christ en Dieu. Colossiens 3:3. Nous sommes maintenant en Christ. La bénédiction n'est plus liée au mariage dans le cadre de la famille. La bénédiction est sur chacun d'entre nous individuellement. Nous sommes au cœur, chacun d'entre nous, au cœur de la bénédiction de Dieu en Christ. À la différence de l'Ancien Testament, où on trouvait 180 fois la notion de famille, le mot de famille, ce terme de famille, dans le Nouveau Testament, seulement à 4 fois il apparaît, dont 2 qui sont des mentions de versets de l'Ancien Testament, et une qui demande de saluer un tel et sa famille. Et donc il n'y a vraiment qu'une seule fois où Dieu est le Dieu appelé le Dieu de toutes les familles. Et donc là, on voit que la notion individuelle entre dans le caractère du Nouveau Testament. Et alors, si on reprend le caractère de l'eunuque qui n'était même pas accepté dans la congrégation d'Israël, là, par contre, Matthieu 19, 12 nous dit qu'il y en a qui ont été faits ou se sont faits eunuques pour le royaume de Dieu. Et donc, dans le royaume de Dieu, ça ne pose aucun problème. Donc voilà vraiment les différences et on sent la rupture qu'il y a au niveau entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Et donc le diagramme de tout à l'heure, Dieu bien sûr est là, en Christ, bénédiction sur l'Église pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre, pour l'éternité. Et donc on change complètement la perspective. Et nous sommes cachés en Christ, nous sommes dans le Christ, Christ vit en nous. Alors, il y a une évolution historique. Genèse 2, 24, c'est fructifier, multiplier, et puis c'est quitter, s'attacher, être une seule chair. Je ne sais pas comment Adam a compris ces choses quand Dieu lui a donné ça. C'était avant la chute, il n'y avait pas de famille, ils étaient lui et Ève. Et Dieu donne ce message de se quitter des parents, alors qu'il n'y avait pas d'enfants. Mais voilà, Dieu avait inscrit ce message dès le début, dès le fondement, pour que les choses soient bien inscrites comme cela. On passe un peu plus loin, Genèse 12, 3. Dieu dit à Abraham, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Et donc la bénédiction qui vient d'Israël, qui vient via Abraham, se fait sur les familles. Si on continue encore à Genèse 22, Genèse 22, c'est le sacrifice d'Isaac. Alors, à la suite de l'Holocauste qui est fait sur l'agneau que Dieu amène au dernier moment, Dieu dit, mais en toi seront bénies toutes les nations. Et donc là, on redevient à quelque chose d'individuel et on voit que ce sacrifice, qui est un type de l'œuvre de Christ, fait changer le caractère de la bénédiction. Avant l'œuvre de Christ, c'est les familles, après l'œuvre de Christ, c'est l'individualisation. On passe à la période néo-testamentaire, on voit 1 Corinthiens 7, où l'apôtre Paul dit, au verset 28, « Celui qui se marie ne pêche pas. » Bon, mais celui qui... Mais il aura de l'affliction. Voilà, c'est la rançon. Et puis au verset 38, il va dire, « Bon, celui qui se marie fait bien, mais celui qui ne se marie pas fait mieux. » Et donc, au début de l'Église, le célibat, là, est porté en valeur fondamentale. Et l'Église catholique romaine, qui va être le courant de l'Église dans les premiers temps, va prôner le célibat des prêtres, va pousser l'état monastique, va présenter ça comme le fait de se retirer, comme quelque chose de formidable, extraordinaire, qui permet de se consacrer à Dieu en me libérant des choses de la terre. J'acquiers un état de liberté pour le service de Dieu. Seulement, les craintes de l'apôtre Paul vont effectivement se manifester et cet état monastique va être, dans bien des cas, entraîné dans des dérives qui vont faire qu'il va perdre tout son bien fondé et sa justice. Et vont arriver les réformateurs qui, eux, vont s'opposer à tout ça, vont lutter contre ça et vont prôner à nouveau le mariage. Et Luther, Calvin vont être de ceux qui vont amener l'état de marié et le pousser en avant et le présenter comme un état normal pour le chrétien et marginaliser le célibat suite aux dérives et aux excès des temps passés. Le 19e siècle va bâtir cette idée, en tout cas en France, que la nation est construite sur la base des familles. Et on va pousser encore, encourager les familles comme base et soutien du peuple, de la nation, de la culture, de ce qui se construit. Et on a la grande révolution industrielle qui est bâtie sur des grandes familles qui vont construire le pays et l'industrie. Et puis arrive, et donc on est dans la marginalisation du célibat. Et puis va arriver le postmodernisme, donc 1968 en France, cette grande rupture, ce slogan « Famille, je vous hais », où alors on va amener l'individualisation de l'individu, excusez-moi, la responsabilité individuelle, le besoin, la capacité de vivre pour soi en tant qu'individu et non pas pour les autres. On passe de la civilisation du devoir à la civilisation du droit. L'allongement de la durée de la vie, l'émancipation des femmes font que le célibat reprend une valeur et ne met plus en danger la société. Et le célibataire n'est plus un marginal, n'est plus un frustré, n'est plus un incapable, un délaissé, quelqu'un dont personne n'a voulu, qui est incapable de vivre en groupe et sur lequel on fait porter tout un tas de mauvaises choses, un paria, ça devient maintenant un état important. Et je ne connais pas les chiffres en Suisse, mais en France, aujourd'hui, un tiers de la population environ est solobataire. Hein, ça va de célibataire à divorcé, veuf et abandonné ou divers. Mais il y a un tiers de solo en France. Avant tout choix, alors on peut maintenant, nous sommes dans ce que nous a donné l'Évangile, c'est-à-dire le choix. Et l'apôtre Paul dit, voilà, celui qui marie ne pêche pas. Bon, il y aura peut-être des petites contraintes, mais il n'y a pas de souci, tout va bien, choisissez. Et donc nous sommes devant ce choix. Mais je crois qu'il y a un préalable à tout choix. Qu'on se destine au célibat, qu'on se destine au mariage. Alors, c'est plus particulièrement valable pour ceux qui veulent aller vers le mariage, parce qu'au mariage, on y part à deux, voire plus en famille. C'est de laisser les valises du passé Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 6, nous fait une description d'un certain nombre de dérives, de difficultés, de péchés, de choses graves, de choses mal discernées, et nous appelle à les régler. Quelques-uns d'entre vous étiez-tels ? Quelques-uns d'entre nous avons eu dans le passé des blessures, avons eu dans le passé des expériences malheureuses, avons eu dans le passé des choses qui n'ont pas été droites, ont eu des péchés qui n'ont pas été réglés. Eh bien, la parole de Dieu nous dit « Quelques-uns d'entre nous étions tels, mais nous avons cette promesse que nous avons été lavés, lavés de toute souillure, lavés de tout péché, lavés de toute chose qui pourrait nous accompagner. Nous avons été lavés dans le sang de l'agneau. Nous avons été sanctifiés. Nous sommes des saints désormais. Nous sommes des saints. Nous sommes saints. Je crois qu'on en est tous convaincus, mais c'est bon de le rappeler. Quand l'apôtre Paul écrit à Corinthe, il leur écrit aux saints rassemblés à Corinthe. L'assemblée de Corinthe, on peut rappeler quand même qu'il y avait des gens qui avaient des vies particulièrement dissolues dans cette ville, puisque les soldats romains étaient appelés à ne vivre à l'extérieur de la ville tellement elle était corrompue. Mais dans l'assemblée même, il y en avait un qui couchait avec sa belle-mère, il se fâchait contre l'apôtre Paul, il se faisait des procès entre eux, il s'enivrait en prenant la scène. Et cumuler un petit peu les choses. Une assemblée pareille, aujourd'hui, on se dépêcherait de s'en détacher et de leur écrire des lettres pour leur dire qu'on ne peut plus être en communion avec eux. L'apôtre Paul les appelle des saints. Et ce caractère de saint, il est acquis par l'œuvre de Christ à la croix. Et c'est ce qui nous permet à chacun d'entre nous, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, quoi que nous fassions, de nous appeler des saints devant Dieu. Sanctifié, mais aussi justifié. Et malgré tout ce que nous avons pu faire, tout ce que nous avons pu dire, tout ce que nous avons pu penser, tout ce que nous avons pu avoir comme égarement, nous sommes justifiés devant Dieu. Nous avons la justice de Christ sur nous. Et c'est ce qui nous permet d'être complètement libres. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Seulement là, il y a une condition. Pour avoir tout ça. C'est à notre portée, c'est disponible, c'est là. Il y a une seule condition, c'est de l'accepter. C'est de faire ce pas de foi. Et ça, c'est indispensable que dans nos vies, nous puissions déposer ces choses, ces culpabilités, ces pardons non donnés, ces pardons non reçus, pour pouvoir avancer. C'est indispensable pour entrer dans l'état du mariage. Le mariage n'est pas un lieu de reconstruction. On est appelé à s'édifier l'un l'autre, à se construire ensemble. Moi, je me suis marié à 20 ans, je n'étais pas tout à fait fini. Nous nous sommes construits l'un l'autre. Mais si on emmène des choses à reconstruire, à rebâtir, sur des souffrances, sur des fêlures qui existent, du passé, ça ne marche pas. On va reproduire les schémas. On va entraîner l'autre. On va lui faire porter le poids de nos souffrances. Et on va déséquilibrer, on va pénaliser le mariage. Quand on fait des formations sur le mariage, on a une petite photo là, que je n'ai pas amenée, mais qui représente deux terrains à côté. Là, il y en a un qui est tout bien propre, et puis l'autre, il y a des grosses racines, il y a des pierres, il y a un rocher. Puis il va falloir construire une maison, mais à cheval sur les deux terrains, puisque chacun des époux a amené son terrain, là, et puis on va construire ça. Eh bien, si on ne nettoie pas, si on ne nettoie pas le sol, si on n'enlève pas ces souches, ces racines qui gênent, si on n'enlève pas ces rochers qui sont mal placés, alors la maison va être construite de travers. Et donc, on est appelé à remettre ça avant. Alors, si on ne l'a pas fait, on peut toujours le faire après. Hein. Mais c'est au prix de souffrances, de difficultés et de choses qui se reproduisent après avec les enfants. Et c'est comme ça qu'on transmet l'héritage fâcheux de génération en génération. Eh bien, en acceptant les promesses de la parole de Dieu. Vous savez, dans mon bureau, il y a 8 jours, il y avait quelqu'un qui me disait, mais vous savez, avec ce que j'ai commis, moi je ne peux pas être pardonné, je ne peux pas, ce n'est pas possible, un tel péché, ce n'est pas possible. Je lui dis, bah, écoute, c'était quelqu'un de chrétien, prends ta Bible, 1 Corinthiens 6, on l'a lu, ah oh, mais moi je ne peux pas, pour moi c'est trop. Alors tu prends un crayon, puis tu vas barrer ce verset, parce que s'il ne te sert à rien, ce n'est pas la peine de le garder, tu vas rayer ce verset. Eh bien, ça a fait un choc, parce que c'était un chrétien d'un milieu assez charismatique, très attaché à la parole, et de devoir crayonner sa Bible, ça le choquait. Eh bien, voilà, ce verset, il est pour nous. Il ne faut pas le laisser à l'abandon, il ne faut pas déchirer la page, il faut le garder, il faut se l'appliquer. C'est valable pour ceux qui vont entrer dans le mariage. 1 Corinthiens 6 met les choses, la parole de Dieu ne se cache pas les yeux, hein, et appelle un chat un chat, mais... peut-être que les idolâtres ne se pratiquent plus tellement chez nous, mais les efféminés, ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, nous en France, on vient de voter le mariage homosexuel. Aujourd'hui, ça nous choque encore. Dans 10 ans, peut-être que ça sera banalisé, je ne sais pas. Il y a quelquefois des difficultés qu'on peut rencontrer, des doutes, une ambiguïté sur sa orientation sexuelle. La parole est très claire, l'Épître aux Romains, fin du premier chapitre, le décrit très précisément. On ne va pas réparer ça dans le mariage. Si on a une sensibilité à cette difficulté, il est impératif de la régler avant d'envisager quoi que ce soit. Sinon, on va à la catastrophe. Et ce n'est pas en se bouchant les yeux et en disant « Oh ben, on verra bien, le Seigneur nous aidera, et puis on va voir comment ça marche ». Ça ne marche pas. La parole de Dieu nous donne des consignes, nous donne des façons de faire. Voilà, réglons les choses et avançons. Et ne partons pas à l'aventure, ça ne marche pas. Pour ce sujet-là. Mais peut-être que quelques-uns d'entre nous avons eu des expériences préconjugales. Il y a pardon pour ceux qui confessent leurs péchés. Romains 8, il n'y a aucune condamnation. Voilà. Mais il faut venir, il faut confesser, il faut régler ces choses, il faut recevoir la paix, il faut recevoir la bénédiction de Dieu, et on repart. Mais si on reste avec cette écharde dans le talon, on n'avance pas bien vite, et on ne va pas bien loin. Et ça saigne, et ça purule, et ça empêche la marche convenable et correcte. Il est indispensable de le faire. Il n'y a pas d'alternative, sinon on s'engage dans un chemin de souffrance. C'est valable pour ceux qui vont se marier. C'est valable pour ceux qui sont célibataires aussi. Alors, l'avantage pour eux, c'est qu'ils feront souffrir personne. Mais ils vont mal vivre. Ils vont gâcher, s'ils ont eu cet appel particulier, c'est quand même dommage de le gâcher. C'est quand même dommage de rester entravé et d'en vivre avec une culpabilité, avec quelque chose qui va nous retenir, nous empêcher d'avancer. Alors, les célibataires, je vous propose qu'on lise quand même un peu 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul fait l'état comparatif, si vous me permettez l'expression, entre le mariage et le célibat. Et visiblement, c'était en réponse à une question qui lui avait été posée par les frères à Corinthe au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, mais à cause de la fornication, que chaque homme ait sa propre femme et chaque femme son mari à elle. Si on continue au verset 6, je ne dis ceci pas par indulgence, ce n'est pas un ordre, mais je voudrais que tous les hommes soient comme moi, c'est-à-dire célibataires. Toutefois, chacun a son propre don de grâce de la part de Dieu, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. L'un d'une manière et l'autre d'une autre. Je dis à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves qu'il leur est bon de demeurer comme moi. Mais s'ils ne savent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Verset 17, « Toutefois, que chacun agisse comme le Seigneur le lui a départi, chacun comme Dieu l'a appelé. C'est ainsi que j'en ordonne dans toutes les assemblées. Verset 25, au sujet des personnes qui sont vierges, célibataires, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne mon opinion comme ayant reçu miséricorde du Seigneur pour être fidèle. J'estime donc que c'est une bonne chose, à cause de la nécessité présente, qu'il est bon pour l'homme de rester comme il est. Es-tu lié à une femme ? Ne cherche pas à en être séparé. N'es-tu pas lié à une femme ? Ne cherche pas de femme. Cependant, même si tu te maries, tu n'as pas péché. Si la femme vierge se marie, elle n'a pas péché. Mais ceux qui font ainsi auront de l'affliction pour ce qui regarde la chair. Moi, je vous épargne. Donc voilà, l'apôtre Paul nous avertit quand même que dans le mariage et la famille, il y a beaucoup de bénédictions, mais on a aussi quelques afflictions. Verset 32, « Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié a le corps occupé des choses du Seigneur. Comment plaire au Seigneur ? Mais celui qui s'est marié a le corps occupé des choses du monde. Comment plaire à sa femme ? Il y a une différence entre la femme mariée et la célibataire. Celle qui n'est pas mariée a le cœur occupé des choses du Seigneur pour être sainte de corps et d'esprit. Tandis que celle qui est mariée a le cœur occupé des choses du monde. Comment plaire à son mari ? Et verset 36, si quelqu'un estime qu'il agit d'une manière inconvenante à l'égard de sa virginité, que soit passée la fleur de son âge, qu'il doive en être ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pèche pas, qu'il se marie. Mais celui qui tient ferme dans son cœur et qui n'est pas sous l'emprise de la nécessité et qui est maître de sa propre volonté et qui a décidé dans son cœur de garder sa virginité fait bien. Ainsi, celui qui se marie fait bien, celui qui ne se marie pas fait mieux. Bon. Voilà, tout est dit. Donc, ce célibataire, il fait les choses meilleures, parce que, comme on le voit un peu plus loin, on a tout son cœur libre et disposé à être tourné vers le Seigneur. Et c'est un petit peu ce qu'avait fait l'Église catholique romaine en empêchant les prêtres de se marier, en disant « mais vous n'avez pas le temps de vous occuper d'une famille ». Et chez les catholiques, qui se moquent gentiment des protestants, ils disent, parlant des enfants, mal élevés comme un enfant de pasteur. Parce que les pasteurs, quelquefois, sont disponibles pour la terre entière, pour leur paroisse, pour leurs paroissiens, pour tout. Et puis les enfants, vous demanderez à Bertrand qui vous raconte une expérience quand sa femme lui a téléphoné pour lui parler. Je ne trahis pas, mais... plus facile de parler des autres que de parler de soi. Mais quelquefois, on est très disponible pour tous les autres, et puis la famille passe après. Et mon épouse aurait beaucoup aimé être avec vous aujourd'hui. Elle a eu la grâce de choisir de s'occuper de notre fille plutôt que de venir. Donc elle s'excuse de ne pas être là. Seulement, voilà, c'est très ambitieux comme programme. C'est très ambitieux d'accepter de sacrifier son être profond et de choisir de s'engager comme ça, et de renoncer à un certain nombre de choses. Il y a le problème de brûler, il y a la tentation, il y a ces besoins qu'on a au fond de soi, et l'apôtre Paul dit, ben, si vous êtes capable de les maintenir, et ben, voilà, restez célibataire, et peut-être que pour vous c'est difficile. Alors, il y a ce choix. On dit dans le monde qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est vrai. Le livre des Proverbes parle aussi de la femme querelleuse. Et il dit qu'il vaut mieux habiter sous le coin d'un toit, là où il y a le plus d'eau qui afflue, que d'avoir une épouse querelleuse. Mais le célibataire doit rester conscient et réaliste concernant ses besoins affectifs, ses besoins relationnels, ses besoins sexuels, qui nécessitent d'être en relation avec l'autre. Et il est nécessaire de trouver des alternatives, de trouver des réponses à ces besoins, qui sont des besoins qui existent. Alors, être seul, ça veut dire aussi prendre sa vie en main. de ne pas rester dans un stand-by en attente qu'un jour quelqu'un vienne me chercher. Sinon, ça entraîne un sentiment de victimisation. Voilà, on m'a rejeté, on ne m'a pas choisi. Je suis victime d'un ostracisme quelconque. Parce que je ne suis pas grand, parce que je ne suis pas blond, parce que je porte des lunettes, parce que je n'ai pas les formes qui sont dans les canons d'aujourd'hui. Alors je me sens victime. Coupable aussi. Je ne suis pas assez gentil, je ne suis pas assez aimable, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez riche. Je me sens coupable de ne pas avoir été choisi. Quelquefois, ça peut entraîner un retrait sur soi et de fausses convictions. Puisqu'on ne veut pas de moi, c'est que je ne suis pas intéressant, je ne suis pas valable. Et là, le seul moyen, c'est de se rappeler qui nous sommes pour le cœur de Dieu. Quelle est notre valeur? Quelle est ma valeur? C'est pas parce que je vais séduire ou que je vais attirer. Ma valeur, elle est dans ce que Dieu l'a estimé, la valeur de Christ, la valeur du sang de Christ pour moi. Voilà ma valeur. Je suis précieux aux yeux de Dieu. Et alors, si j'entre dans cette conscience de la valeur que j'ai pour le grand Dieu du ciel, alors, voilà, la valeur que j'ai pour l'un ou pour l'autre va perdre un petit peu de son impact sur moi. Qui suis-je pour le Seigneur? Qui suis-je pour le Christ? Qui suis-je pour mon Père? Ce sentiment de solitude que peut ressentir le célibataire, de n'exister pour personne. Je rentre chez moi et personne ne m'attend. Cette souffrance peut être subite, trouvée intolérable, injuste. Ce sentiment d'abandon, de jugement sur soi-même, on l'a dit. Et alors, provoquer une espèce d'attente de l'autre. Je vais attendre ce conjoint qui va enfin me révéler, qui va me mettre en valeur, qui va, vous savez, dans les contes de fées, cette princesse endormie qui est réveillée par le baiser du prince charmant. C'est le rêve du Pygmalion, c'est le rêve de, voilà, celui qui va révéler l'homme ou la femme que je suis par ce conjoint. Et donc, tant que ce conjoint n'est pas venu me chercher, jamais je ne serai rien du tout, je ne serai pas qui je suis. Et je vous rappelle ce mythe grec, de ce dieu qui avait coupé les oranges en deux et les avait dispersées sur la terre. Et je suis toujours à la recherche de ma moitié d'orange pour pouvoir trouver. Hein, et on parle bien de son épouse en disant voilà, ma moitié, qui est vraiment quelque chose d'horrible, mais voilà, qui est un peu dans le langage courant. Mais si je suis toujours à la recherche de cette moitié qui va enfin me rendre entier, alors je ne peux pas vivre célibataire. Et donc c'est vraiment une fausse conviction. Vous savez, c'est un peu comme ces personnes qui se trouvent trop grosses et qui disent « Mais voilà, quand j'aurai perdu 10 kilos, là au moins, tout me réussira. Je trouverai du travail, je gagnerai plus, je serai augmenté, j'aurai des amis, je changerai de voiture. Voilà. Mais ces 10 kilos de trop, ça m'empêche d'être ce qui je suis vraiment. » Eh bien, ces mêmes personnes qui sont dans l'attente du conjoint, qui va les révéler, leur permettre de prendre leur essor, restent dans la même illusion, dans le même rêve. Ce n'est pas... Alors ça contribue à aider, ça contribue à fortifier. Et je l'ai dit, on se construit l'un l'autre. Mais on ne répare pas ce déficit d'image, ce déficit de savoir qui je suis, parce que je ne me suis pas vu dans l'œil de Dieu. Il y a une difficulté aussi dans la fécondité. Et je pense que pour les femmes, c'est peut-être plus sensible que pour les hommes, de voir l'horloge biologique qui tourne et de se dire que peut-être... elles n'auront pas ce désir comblé d'avoir mis au monde un enfant. C'est une souffrance, plus particulièrement pour les femmes, aussi pour les hommes. Et pour les célibataires qui désirent l'être et qui l'assument, il y a à trouver une autre forme de fécondité par le service, par l'accompagnement. Et nous connaissons sans doute tous les uns ou les autres des personnes ou des couples qui, n'ayant pas eu d'enfants, ont trouvé à l'extérieur une forme de fécondité, de transmission, de pouvoir apporter et de créer quelque chose qui va perdurer. Ça nous amène à nous qui sommes mariés et nous qui accompagnons, à avoir ce cœur aussi pour les célibataires, pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui n'ont pas une épaule pour se reposer, qui n'ont pas ce conseil, qui n'ont pas cette facilité d'échange, qui ont ces temps de solitude. Et les événements de la vie marquants sont des révélateurs de la solitude. Alors, nous qui avons ce privilège d'être en famille, pensons, ayons un cœur aussi pour ceux qui sont seuls, de penser à les accompagner. L'Épître nous dit que le service religieux, spirituel, intelligent, c'est d'accompagner les veuves et les orphelins. Ce n'est pas de faire des longues prières, ce n'est pas de faire des méditations, c'est d'accompagner ceux qui sont seuls. Et je mets les célibataires au rang des orphelins du mariage, si vous voulez. Mais voilà le service spirituel, religieux, intelligent. C'est de s'occuper de ceux qui sont seuls. L'idée, c'est que ce célibataire n'ait pas l'impression d'être ce bourgeon du printemps qui avorte sur l'arbre. Qu'il y a possibilité de fécondité, de service, de liberté. Et que ce ne soit pas quelque chose d'astreignant, d'enfermant et d'écrasant. Marié. Alors, c'est l'autre option. La Genèse nous dit ces trois étapes et ce sont des choses qui sont écrites avant la chute et donc qui perdurent. Elles ne sont pas liées à l'arrivée du péché dans le monde. Il y a ces trois étapes. La première, c'est de quitter. Il faut quitter sa famille. Et sinon, ça ne fonctionne pas. Et je vous rappellerai simplement l'histoire d'Abraham, qui a été appelé à quitter son pays et sa parenté, à laisser son père. Et Saraï, qui était stérile, elle était stérile, pour des raisons, mais elle s'appelait Saraï, ma princesse. Qui c'est qu'il avait appelé ma princesse ? C'était son père. Et elle ne viendra féconde qu'en changeant de nom et en s'appelant princesse tout court, princesse de son mari. Et donc le lien, c'est la première chose à faire, c'est de couper ce lien. Et alors nous avons chez nous ce fameux film là, qui est devenu un vocable maintenant, un tanguy, hein, les adolescents qui restent à la maison, qui ne partent pas. Pourquoi ? Parce que les parents maintenant sont tellement gentils. Autrefois, les parents étaient durs, sévères. Ma génération n'avait qu'une envie, c'était de partir, de quitter la maison, de devenir indépendant. Et maintenant, c'est fini, ça. Les parents laissent faire, acceptent beaucoup de choses, ont tellement peur de perdre l'amour de leurs enfants qu'ils sont prêts à accepter presque tout et presque n'importe quoi. En tout cas, quelques-uns. Et donc, c'est très agréable de rester chez ses parents. Le ménage est fait, il n'y a pas de frais extérieurs. Voilà, bon. Mais la parole de Dieu nous demande de quitter. Quitter. De quitter affectivement, de quitter spirituellement, et ça c'est très difficile, de se créer une indépendance. Et de quitter géographiquement, physiquement. Alors, vous allez me dire que quelquefois c'est difficile. Que quelquefois on travaille ensemble dans la même entreprise ou la même exploitation ou que c'est pas toujours évident. Alors, il y a des façons de le faire. Hein, et on connaît bien des cas où ça se passe très bien et où ça pose pas de soucis. Et nous sommes heureux et nous respectons ces choses. Mais si ça fonctionne bien, c'est qu'il a été mis en place des façons de se libérer les uns les autres, de ne pas se lier et que l'autorité dans la famille est respectée, acquise, et que ce n'est pas le beau-père ou la belle-mère qui vient piloter ce qui se passe au niveau des petits-enfants. C'est difficile. Voilà, je pense que pour ceux qui vivent ensemble, c'est d'autant plus difficile que pour ceux qui sont séparés. Mais voilà, on connaît bien des cas où ça se passe très bien. On oppose souvent ce verset aussi qui nous dit d'honorer nos parents. Donc je ne peux pas quitter mes parents, ça serait ne pas les honorer. Alors honorer, c'est mettre à sa vraie place. On honore que ce qui est honorable. On ne va pas honorer n'importe quoi. Et il faut honorer nos parents. C'est indispensable. C'est le premier commandement avec promesse. Et c'est repris dans le Nouveau Testament. Donc il faut honorer ses parents. Mais ça ne veut pas dire leur obéir. Ça ne veut pas, quand on est adulte et indépendant, hein, soyons clairs. Je n'ai pas dit qu'il fallait désobéir à ses parents. Donc je reprends bien, il s'agit d'adultes indépendants. Pour les autres, c'est obéissez à vos parents. Voilà, honorer, c'est respecter ce qui est honorable. C'est respecter ses parents en tant que personne. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut honorer les faits, qu'il faut honorer les manières de faire quand elles ne sont pas conformes à la parole ou respectables. Sinon, on devient alcoolique, fils d'alcoolique. Puisque j'honore mon père alcoolique, il n'y a pas de raison que je ne reste pas moi aussi dans l'alcool. Dans ma famille, on est coléreux ou colérique. Donc j'honore ça et je vais devenir moi aussi un colérique. Hébreux 13 nous parlait de nos conducteurs. Honorez vos conducteurs. Considérez l'issue de leur conduite. Imitez leur foi. Pas leurs actes, pas leur façon de faire, pas leur façon de penser. Imitez leur foi. S'attacher. C'est très difficile de s'attacher. Et ce n'est pas du tout dans l'air du temps. Et c'est à contre-courant de l'air du temps. Et il me reste 3 minutes. C'est une volonté délibérée. Il faut s'y atteler. C'est un besoin, c'est une volonté. Je n'ai que 32 ans de mariage et bien des frères et sœurs qui en ont plus que moi pourraient témoigner, mais ce n'est pas facile tous les jours. Il y a des moments où on se dit qu'on serait peut-être plus tranquille tout seul ou avec quelqu'un d'autre. Non ? Jamais. Bon. Il y a cette volonté, il faut avoir cette volonté que c'est comme ça et qu'on va y arriver, que le Seigneur va nous aider et que on ne se donne pas le choix ni de l'alternative. Et c'est ce qui va nous tenir. L'autre chose importante, c'est le projet commun. Pour ceux qui envisagent de se marier, qui ont un projet de mariage, il y a ce proverbe qui dit « il n'y a pas de bon vent pour le marin qui ne sait pas où il va ». Si vous vous laissez porter par les circonstances, les événements de la vie, si vous êtes baladé de droite et de gauche par ce qui se passe, vous n'irez jamais nulle part, ou pas forcément là où vous voulez aller. Mais fixez-vous un but. Qu'est-ce que vous voulez faire ensemble dans la vie? Où est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous voulez vous engager pour le Seigneur? Est-ce que vous avez ce projet ensemble de le faire? Est-ce que vous voulez vivre une vie mondaine ou une autre? Choisissez, mais choisissez ensemble. Avec mon épouse, on avait une vie, on était entrepreneurs, on avait une vie parisienne, voilà, qui marchait bien. On a décidé d'arrêter ces choses et de nous engager à plein temps pour le Seigneur dans ce ministère. Nous avons eu ce cadeau extraordinaire de recevoir cet appel ensemble et d'avoir ce projet commun ensemble en même temps. Si l'un des deux avait eu envie de rester et de continuer de vivre une vie mondaine, d'avoir un beau 4x4, de faire des ceci et des cela, de ce voyage au bout du monde sans arrêt, et que l'autre préfère le choix que nous avons fait là aujourd'hui, ça aurait été très compliqué. Alors, on a des changements de vie, et il faut les gérer et les assumer, mais déjà au départ, il faut être bien d'accord sur le but qui nous attire ensemble. Et donc, dans votre projet de mariage, dans votre choix, mettez en avant ce projet commun. La beauté, ça passe. L'argent, ça n'apporte pas le bonheur. Les relations, elles vont, elles viennent. Mais le projet qu'on a ensemble, c'est ce qui nous conduit, c'est ce qui nous nourrit et c'est ce qui nous amène au but. Être une seule chair, je ne vais pas développer, mais vraiment, si on veut que ça fonctionne, la sexualité, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est un des éléments fondamentaux du mariage. C'est ce qui unit le couple, c'est ce qui nous tient l'un à l'autre, c'est ce qui nous aide à être ensemble. C'est le cadeau de mariage que Dieu a fait au couple. Ce n'est pas juste un bonus, c'est un élément important, fondamental, indispensable du gâteau. Si on veut que ça marche, il faut être passé par un Corinthiens 6. Il faut que les choses du passé, il faut que les blessures, Il faut que les péchés aient été confessés, réglés, pardonnés, les blessures réparées. C'est indispensable. En conclusion, le mariage n'est pas le signe de la bénédiction de Dieu. On peut être heureux et être béni dans le célibat. On n'est plus dans l'Ancien Testament. Mais le lieu où la bénédiction de Dieu s'exerce, Dieu nous accompagne et nous donne sa bénédiction dans le mariage, comme dans le célibat. Juste un mot encore, une minute, c'est encore bon? Ayez des modèles. J'ai cité Hébreux 13. Considérez, honorez vos conducteurs, considérez l'issue de leur conduite. Et puis vous imitez leur foi. Quand j'avais 16 ans, je m'étais embarqué dans une relation qui n'était pas adaptée, dans une mauvaise voie, dans des choses qui auraient été pas bonnes pour la suite. J'ai eu la chance d'être invité chez des amis, des cousins, et pour un week-end comme ça, là, et je les ai vus vivre. Et c'était à Tournon, pour ceux qui connaissent. C'était sympa. Il y a eu le culte, il y a eu des moments de chant, il y a eu à la maison des moments de prière, on a rigolé, il y avait des barbecues, on était ensemble, ils avaient une maison remplie. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux comme vie. Je veux cette vie-là. En famille, avec d'autres chrétiens, c'est ça que je veux. Et c'est ce qui m'a aidé à prendre les décisions qu'il fallait prendre et à réorienter ma vie. Et donc, je repense aussi à un séminaire où j'avais assisté, où il y avait, c'était sur l'homosexualité. Et un jeune homme a témoigné en disant, « Ok, je suis ce que je suis, j'ai les difficultés que j'ai. » Mais ce qui m'a fait changer, c'est de voir dans une boîte de nuit ou un bar, ou je ne sais où, dans un endroit, il y avait ces hommes vieux, pris dans ce piège-là, malheureux, en train de boire de l'alcool, dans le noir, à regarder ce qui se passait, quelque chose de glauque, d'horrible. Et le gars disait, mais je me suis vu comme ça dans 30 ans. Je n'ai pas voulu ça. Et c'est ce qui m'a aidé à entrer dans le chemin de changement. Donc c'est dur quand on a 16 ans, c'est dur quand on a 20 ans, de se dire, comment je serai dans 30 ans. Considérez l'issue de leur conduite, imitez leur foi. Considérez la fin. Voyez là où vous voulez arriver. Et vous aurez le vent qui va vous pousser. Quelquefois, pour ceux qui font de la voile, le vent est de face, il faut tirer des bords. Mais on y arrive, on arrive toujours au but. L'important, c'est d'avoir son but. Merci.